Journal des sciences.
Et on ouvre ce journal avec cette découverte importante. Une équipe d'astronomes de l'université d'Arizona annonce cette semaine dans un article paru dans Nature avoir détecté les signaux liés à la formation des toutes premières étoiles de l'univers.
Alors ça fait des dizaines d'années qu'on cherche à capter des signaux liés à la naissance de ces premières étoiles parce que, on l'a rappelé, il faut le rappeler, on a capté la première lumière de l'univers, ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique, à qui vous avez consacré une très bonne émission en octobre, rayonnement fossile qui remonte à 380 000 ans après le Big Bang, donc juste après. Mais l'univers s'est ensuite refroidi, dilaté, et sont arrivés ensuite en nombre des étoiles suffisamment jeunes, en tout cas pour qu'on puisse en voir la lumière. Mais entre-temps, c'est ce qu'on appelle l'âge sombre de l'univers, qui n'est à ce moment-là constitué que de gaz très froid, essentiellement d'hydrogène neutre. Et c'est dans ce contexte que se forment les toutes premières étoiles, dont la lumière est trop ancienne pour qu'on puisse aujourd'hui les observer. Et bien pour la première fois, une équipe qui a utilisé un tout petit radiotélescope baptisé EDGES aurait trouvé leurs traces et aurait même pu dater approximativement leur naissance. Raoul Monsalvé est cosmologue expérimental à l'université d'Arizona et c'est le co-auteur de cette étude. Il m'a expliqué quelles méthodes ils ont utilisées.
Our team has been trying for more than 12 years to measure the radiation that was emitted by neutral hydrogen.
Cela fait 12 ans que notre équipe essaie de mesurer à l'aide d'un radiotélescope les signaux émis par l'hydrogène neutre qui était présent dans l'univers au moment de la formation des toutes premières étoiles. Lorsqu'elles sont apparues, les premières étoiles émettaient des rayons ultraviolets et ces rayons UV ont impacté l'hydrogène neutre. Et cet hydrogène neutre a émis en retour des ondes radio. On connaît bien la signature spectrale de ces ondes radio, 1,4 GHz. Donc on pourrait se dire qu'il nous fallait un radiotélescope sensible à cette fréquence, 1,4 GHz.
But that is not the case. The reason is that the universe has been expanding.
Mais en fait non. Pourquoi ? Parce que depuis ses débuts, l'univers est en expansion. Et à cause de cette expansion, les ondes radio se sont étirées, et quand elles arrivent sur Terre, elles sont plus longues, et leur fréquence est donc plus basse. Notre radiotélescope devait donc être sensible à ces fréquences plus basses. Oui, mais à quel point ? Les modèles théoriques nous prédisaient que ces ondes pouvaient être mesurées à une fréquence proche de 100 MHz. Nous avons donc construit nous-mêmes un radiotélescope en fonction de ces estimations que nous avons installé dans le désert dans l'ouest de l'Australie, l'un des endroits du monde où il y a le moins d'interférences radio. Nous avons capté un large éventail de fréquences et enfin, début 2016, nous avons commencé à détecter un signal centré autour de 78 MHz, donc un chiffre assez proche des estimations des théoriciens. Et cette fréquence nous indique que le processus de formation des premières étoiles a probablement commencé 180 millions d'années après le Big Bang.
Voilà, on mesure l'importance de cette découverte et l'enthousiasme qu'elle a pu susciter. Mais évidemment, Zoé, pour l'ampleur de la découverte que ça représente, cette lumière des premières étoiles, eh bien évidemment, il y a un certain nombre de doutes qui subsistent et en tout cas, encore aujourd'hui, beaucoup de questions.
Oui, alors tout le monde, d'une part, évidemment, les auteurs de cet article, les premiers d'ailleurs, appellent à la confirmation de ces données par d'autres radiotélescopes. On sait qu'il y en a des très importants qui vont être mis en service dans les prochaines années. Mais Brian Schmidt, le prix Nobel de physique 2011, parle d'une découverte révolutionnaire, la plus importante depuis la découverte des ondes gravitationnelles en 2015. Pourquoi ? Parce qu'en plus de donner donc cet âge à ces premières étoiles, l'article de ces astronomes de l'Arizona nous apprend que le signal radio qui a été émis par cet hydrogène neutre pendant la formation des premières étoiles est en fait beaucoup plus puissant que ce qu'on imaginait, ce qui laisse penser que donc l'hydrogène neutre était à ce moment-là plus froid. C'est pour ça que ce signal est plus puissant qu'on le pensait. Alors pourquoi était-il plus froid ? C'est la question à laquelle tente de répondre un deuxième article paru toujours dans la même édition de ce numéro de Science. Une équipe israélienne, cette fois, a émis l'hypothèse que l'hydrogène neutre présent dans cet univers très jeune aurait interagi avec cette fameuse mystérieuse matière noire qui lui aurait en retour transféré son énergie et sa chaleur. Alors j'ai demandé son regard sur ces deux articles à Jean-Marc Bonnet-Bideau, astrophysicien au CEA et spécialiste de l'histoire de l'univers. Écoutez-le.
Alors je pense qu'essentiel, c'est qu'on arrive à observer quelque chose dans un âge assez reculé de l'univers. Et ça, c'est pas tout à fait facile. Et le fait que ça a pris beaucoup de temps, c'est parce qu'il faut des télescopes qui soient sensibles. Puis ensuite, on a beaucoup d'autres choses autour de nous qui qui émet cette radiation dont on parle, parce que dans notre galaxie, il y a des tas d'endroits où l'hydrogène est excité comme ça par une radiation lumineuse. C'est comme un peu chercher une aiguille dans une botte de foin. En science, on ne se satisfait pas d'un seul résultat avec une seule instrument sur un seul radiotélescope. Et quand même, là, le résultat est assez clair. Hein. Parfois, on est beaucoup plus en doute par rapport à la qualité de résultat. Ouais, je pense que le premier papier, c'est une mesure. Les résultats sont fiables. De cette mesure, on déduit que cette émission de l'hydrogène a été produite très tôt dans l'univers et on donne un chiffre de 180 millions d'années. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on se rappelle que l'univers a 13 milliards d'années d'existence, on est très très tôt depuis le début de l'expansion et ça paraît aussi très fiable. Ensuite, après, pour expliquer pourquoi le gaz serait plus froid qu'on ne le pensait, c'est là qu'on rentre dans une espèce de prospective, une espèce d'hypothèse. Et pour moi, c'est un petit peu presque malhonnête parce que, en fait, c'est comme un joker. Finalement, les astrophysiciens à l'heure actuelle, dès qu'ils sont devant un problème qu'ils ne savent pas expliquer, ils sortent la carte matière noire. On n'en est pas du tout là. Pour moi, on n'en est pas du tout là. Il y a bien, bien d'autres phénomènes physiques connus qui pourraient faire que le gaz que l'on observe à ce moment-là, très tôt dans l'univers, est plus froid qu'on ne le pense. Matière noire, il faut se dire que ça fait plus de 40 ans maintenant qu'on la cherche. On n'en a pas trouvé du tout, du tout, du tout.
Et en bref, maintenant, direction Saturne et sa lune Encelade qui pourrait théoriquement abriter de la vie.
En tout cas, la lune de Saturne abrite sous sa surface un océan liquide qui pourrait effectivement abriter des micro-organismes unicellulaires connus sous le nom d'archaïnes. C'est ce qu'explique un article paru toujours dans Nature cette semaine. Des archaïnes qu'on retrouve dans certains environnements les plus extrêmes de notre Terre et notamment un archaïen méthanogène, donc qui produit du méthane, Methanothermococcus okinawensis, qui a survécu en laboratoire dans des conditions qui simulaient l'environnement de la lune glacée Encelade.
Et également sur Mars, d'autres micro-organismes également pourraient y vivre.
Ce sont les conclusions de chercheurs allemands qui, au terme de plusieurs années de recherche, ont établi l'existence de plusieurs populations de micro-organismes qui peuvent survivre pendant des années dans le désert d'Atacama au Chili. On avait jusqu'ici trouvé quelques vagues traces d'ADN dans cette région qui est considérée comme la plus aride de la planète Terre, où les pluies peuvent être absentes pendant plusieurs décennies et qui ressemblent donc beaucoup à certains environnements martiens.
Et alors que la France sort tout juste d'une vague de froid polaire, eh bien à l'inverse, le pôle, lui, vient de connaître un hiver exceptionnellement chaud avec des températures saisonnières supérieures parfois de 30 degrés Zoé aux normales saisonnières.
Alors le réchauffement de l'Arctique est une tendance de fond qui est liée au réchauffement climatique. Ça fait des années que les climatologues nous le prédisent. Mais il s'agit en ce mois de février d'une vague de chaud absolument exceptionnelle, des températures parfois positives alors qu'on est en plein hiver arctique et que la température moyenne normale elle est de moins 30 degrés. Un phénomène qui est lié à la vague de froid qui touche l'Europe. Pourquoi ? À cause de l'explosion du vortex polaire qui est normalement chargé de maintenir les vents froids au-dessus des pôles. C'est ce que m'expliquait hier Étienne Capiquian de Météo France.
C'est quoi ce vortex ? C'est une sorte de tube de vent fort des régions arctiques qui emprisonne l'air froid sur les régions arctiques. Et donc quand le vortex polaire est bien compact, bien organisé avec des vents d'ouest, il maintient en général donc l'air très froid sur les régions arctiques, donc sur les hautes latitudes, alors que quand il se désorganise et qu'il peut se diviser en deux ou s'éclater, il laisse s'échapper de l'air plus froid en général vers les moyennes latitudes. Et là, c'est ce qui s'est passé sur l'Europe. La cause peut rapidement devenir la conséquence en météorologie. Disons qu'il y a déjà eu des apports d'air très doux vers l'Arctique, vers la mi-février. C'est un dédoublement du vortex polaire stratosphérique, donc qui est un réchauffement très important dans la stratosphère, donc il a donc éclaté en deux morceaux et qui ont favorisé ce réchauffement jusque dans la stratosphère, qui s'est lui-même ensuite, par rétroaction, repropagé dans la basse atmosphère, en quelque sorte amplifié le phénomène.
Et en bref, un inquiétant retour de la rougeole en Europe.
L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète face à la recrudescence de cas sur le continent européen en 2017 avec 21 000 personnes touchées par la rougeole et 35 décès, une augmentation de 300% en un an en Europe. C'est l'Italie, l'Ukraine et la Roumanie qui sont les plus touchés. Mais les cas augmentent sensiblement aussi en France et en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, où le nombre d'enfants vaccinés de la rougeole a chuté de 91% en un an.
Et pour finir, comme chaque semaine, par notre rubrique de science improbable, il y aurait un lien ténu, certes, mais un lien tout de même, Zoé, entre le fait de ne pas aimer les mauvaises odeurs et d'avoir un attrait pour les régimes autoritaires.
Mais oui, en gros, la substance de cet article, dont les auteurs, il faut le dire quand même, reconnaissent eux-mêmes les limites, nous explique que si vous êtes un obsédé du Febreze, vous avez une panique des germes, vous êtes un indict à ces parfums d'intérieur affreux à la vanille, eh bien vous avez de fortes chances, ce qui fait de vous de quelqu'un d'encore plus odieux, de voter pour Marine Le Pen ou pour Donald Trump. C'est ça que nous dit cette étude qui a été publiée dans la Royal Society Open Science, qui est le résultat de 3 enquêtes en ligne, dont l'une qui a été menée auprès des citoyens américains juste avant l'élection de 2016, en leur demandant un petit peu s'ils préféraient voter Donald Trump et Hillary Clinton. Alors cette étude montre que, je cite, « les gens qui sont davantage dégoûtés par les mauvaises odeurs sont plus désireux de voter Donald Trump à ce moment-là que ceux qui sont moins sensibles aux mauvaises odeurs. » Alors comment déjà on établit cette concomitance ? Mystère. Mais comment est-ce que donc on se dit que quand vous rejetez les mauvaises odeurs, la transpiration, les matières fécales, l'urine, etc., eh bien vous préférez les régimes autoritaires ? Il pourrait s'agir d'un simple désir de protection contre la maladie, nous expliquent les sécheurs. Et oui, car l'odorat joue un rôle crucial pour détecter les germes, les agents pathogènes. Les personnes qui fuient les mauvaises odeurs préféreraient eh bien, une organisation sociale où la société et les différents groupes, notamment les groupes ethniques, sont séparés. Ce type de société réduit les contacts entre les groupes et réduit en théorie les risques de tomber malade. Alors, on pourrait quand même trouver ça un petit peu facile
à peine.
De dire que finalement, c'est parce que finalement vous êtes hypochondriaque tout bêtement que vous allez voter pour des régimes populistes. Voilà, mais c'est une information qu'on vous laisse comme ça.